c'est cette connerie?
C'est le canu info. Ah!
Mais je ne sais pas.
Mais c'est celui du vendredi en plus.
Quelle heure?
À 19h. Attends que j'appelle ma grand-mère. Tu lui dis de mettre le 102.2. La plus rebelle des radios? La plus rebelle des radios. Waouh!
C'est gros, c'est bleu, ça fait pas de bruit, ça se cache derrière, c'est clair la nuit. Ça te surveille, ça te suit, ça te guette. Même si tu portes une casquette, c'est derrière toi quand tu conduis. Ça veut tes papiers, ton permis, ton vol, volémie et ton fichier. C'est tout le temps vénère et c'est mal poli. Ça te saute à la gueule comme une grosse bête. Un monstre chelou avec sur la tête. Prends mis la chute dans une estafette. C'est quoi? C'est quoi?
C'est ta mise en faux.
Canu 102.2. Canu Info du vendredi.
Canu, donne-moi des infos.
C'est Dodoué.2, la radio plus ribelle.
Paniquez pas. Canu Info du vendredi. Mince, mais alors je pense. Si.
Je pense que les micros sont ouverts, il y a même.
Ah ouais, c'est mon casque qui n'est pas ouvert. Ah ouais, génial.
Tu penses donc que tu es au Canu Info du vendredi. Et ailleurs, on va commencer par aller à Valfleury où l'accueil des migrants s'organise.
Et ensuite, on vous parlera de comment TCL explose le tarif des amendes.
Et ensuite, ça fait bang, 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 bang dans Lyon 5e.
Ensuite, on va vous parler de la carte d'identité biométrique qui arrive aussi dans le Rhône.
Et puis à Lyon, il y a des personnes âgées qui rentrent en résistance contre la destruction de leur maison de retraite.
Ensuite, dans le National, on ira à Nantes où la caisse de solidarité est dans le collimateur d'un juge d'instruction.
Ensuite, on parlera de violences policières parce que la Cour de cassation vient de relancer une affaire d'un lycéen qui avait été blessé par un tir de flashball en 2011.
Et ensuite, toujours dans la rubrique migrants et migrantes, à Calais, la guerre des douches continue.
Ensuite, ce sera l'international avec des petites nouvelles de Trump.
International toujours, il paraît qu'il y a eu des expulsions en Suisse.
Et enfin...
Enfin, on va vous parler de la lutte des Sioux
qui viennent de se faire expulser de la zone qu'ils protégeaient d'un projet de pipeline aux États-Unis.
Pour finir avec le traditionnel agenda.
Prenons une ville, Lyon. À Lyon, nous pensons que chacun est capable d'innover. Nous rassemblons les conditions nécessaires pour faire émerger les projets les plus
avec la volonté la plus respectueuse et la plus responsable.
Allez-y, la précarité n'est pas minimale à Lyon.
Difficile.
Pour cela, nous récoltons les données du territoire, les organisons et les traitons.
On ne pense pas ici que cela fait plaisir à aucun des adjoints élus ici.
Et vous bougez en bonne intelligence. Pouvoir inventer et construire la ville de demain est une chance. Construisons-la ensemble.
On ne vous laissera pas faire.
On ne vous laissera pas faire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
C'est nous les zadistes. En chantant résiste.
Et oui, mon micro est ouvert et ça, c'est génial. Mais du coup, je veux vous parler de Valfleury. Valfleury, qu'est-ce que c'est? C'est une petite commune de la Loire dans laquelle 700 habitants ont vu s'installer 30 migrants et migrantes au moment du démantèlement de la jungle de Calais. Alors, on a retrouvé un petit reportage qui avait été fait par Les Pieds sur Terre et qui vous permet d'entendre ce qu'il se disait avant que les migrants et migrantes arrivent.
Ah. Alors je pense savoir pourquoi. Hein.
Mais c'est vous qui allez me dire, tiens.
C'est pour notre super surprise, super cadeau.
Alors c'est quoi ce cadeau?
Oui, alors là, écoutez, nous ne sommes pas contre accueillir des migrants. Mais que ce soit des familles, mais pas des hommes. Et là, facilement, ils seront tout prêts à se bagarrer entre eux. Non, non, ça, c'est des mentalités. On ne peut pas les comprendre. C'est tout à fait différent de chez nous, leur mentalité.
Je dis franchement, j'ai peur. C'est pas la même mentalité que nous. Bon, ça peut se passer bien, mais enfin... Moi, personnellement, je vous dis, j'ai peur.
Vous allez fermer votre porte maintenant?
Eh ben, je pense maintenant. D'habitude, c'est toujours ouvert. Mais là, je crois que je l'ai fermé. Hein. Parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. J'aime jouer avec j'ai pas le feu, mais j'aime pas me brûler. J'aime jouer avec le feu, mais j'aime pas me brûler.
Je trouve que c'est tout à fait honteux. Nos parents et nos grands-parents se sont battus pour la France et aujourd'hui on se fait envahir. Envahir silencieusement. C'est inadmissible. Et aujourd'hui, vous voyez, il y a des forces de police, il y a la gendarmerie. Hein, on est des dangereux terroristes. Mais ces gens-là, quand ils vont piller, voler, violer, il n'y aura personne. Vous pourrez toujours aller à la gendarmerie. Ça servira strictement à rien. On le connaît par cœur.
Et donc, voilà, c'était un petit reportage de Les Pieds sur Terre que j'ai remasterisé avec une musique incroyable qu'on aura reconnue, Les Shérifs. Mais du coup, qu'est-ce qui s'était dit dans ce petit reportage? Du coup, c'était écouter ce que disaient les habitantes de Valfleury à l'époque où les migrants allaient arriver. Donc, face à la fronde un petit peu de la population, la préfecture avait déjà fait marche arrière. À la place de 50 personnes, c'était 34 personnes seulement qui étaient accueillies dans un des anciens locaux de l'ADAPI qui a du coup été transformé en fameux centre d'accueil et d'orientation, les CAO, qui est censé rester ouvert jusqu'à avril 2017. Alors, dès le lendemain de l'arrivée de la trentaine du coup de migrants, il y a quand même deux habitants de Valfleury qui sont rendus au centre d'hébergement et qui ont voulu... un petit peu savoir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour accompagner et pour aider ces migrants et ces migrantes qui étaient là. Ils ont fait une première réunion où ils ont invité un petit peu les gens autour, leurs amis à eux et les gens des communes autour de Valfleury. Là, c'est plus de 60 personnes qui ont répondu à l'appel. Et à partir de là, du coup, s'est créé un collectif d'aide en fait aux CAO et aux migrants et migrantes présents. Pour savoir exactement ce que les migrants avaient besoin, ils ont fait passer un questionnaire au sein du CAO. Et du coup, grâce à ce questionnaire, ils ont pu mettre en place des cours de français, il y a tout un vestiaire qui s'est mis en place, font des coupes de cheveux, de l'aide dans les démarches administratives, au-delà de ce qui a pu être proposé par les professionnels du CAO. Et il y a même des randonnées, il y a une incroyable sortie ski qui a été faite à côté de... Parce que bien sûr, Valfleury, c'est dans le Pila, donc du coup, il y a plein d'endroits pour faire du ski de fond dans le Pila. Et ils sont allés faire du ski de fond, ils sont allés bouffer ensemble et tout. Enfin, c'était un truc, du coup, un espèce de grand moment comme ça, de solidarité, où tout le monde mange ensemble. Apparemment, ça avait l'air sympa. Mais du coup, en fait, pourquoi j'en parle, c'est parce que du coup, on est parti de quelque chose d'un peu bourrin, voire même un peu faf, où on avait très peur de ce qui pouvait se passer. Et résultat, les gens étaient vachement... surprenant parce qu'ils se sont tous retrouvés. Et donc là, il y a, je sais plus, il y a 220 bénévoles qui font partie du truc. Il y a une quinzaine de... Il y a une quinzaine de bénévoles qui habitent à Val-Fleury même, et tous les villages aux alentours sont mis en place. Il y a des trucs, il y a des soirées collectives où ils font à manger ensemble toutes les semaines. Il y a un vestiaire, il y a plein de cours de français qui sont mis en place. Alors, ils ont fait un super site internet où on peut participer, donc du coup, ils nous disent tout ce qu'ils font. Alors, je vais retrouver, bien entendu. Alors, j'ai trouvé ça génial parce que, par exemple, il y a un match de foot entre les migrants et le village d'à côté. J'ai pas trouvé qui c'est qui avait gagné, mais il y a tout. Enfin voilà quoi, il y a tout un tas de trucs comme ça, de randonnées, et puis alors ils ont fait des fêtes pour Noël, nanana, il y avait, ça s'appelait quoi, un collectif, le collectif lance une famille, un migrant, donc du coup c'était toutes les familles du village qui étaient invitées à inviter chez eux justement des migrants pour Noël, et donc ils se retrouvaient avec trop de familles et pas assez de migrants. Ils ont fait pareil pour le Nouvel An, machin, c'était la fête, tout ça. Alors ce qu'on peut dire déjà, c'est que ok, bon, c'est sympa. Après, bon, c'est quand même basé avant tout suite à un appel du pape. Enfin, c'est quand même organisé avant tout par le Secours catholique et l'association CFD, qui, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais bon, c'est un truc.
C'est CFD, Terre Solidaire, voilà. Qui est un truc catho, ouais.
Mais du coup, bah, c'est quand même assez sympa de reconnaître qu'il a pu se passer ça à Val-Fleury. Et bah, les gens qui, au début, du coup, même de Val-Fleury, qui n'étaient pas du tout OK pour que les migrants viennent s'installer, finalement, une espèce de pause qui s'est mise en place. Les gens étaient de plus en plus neutres. Et puis même des gens qui, au départ, étaient complètement opposés, sont venus rencontrer les migrants. Puis finalement, ils sont tombés potes. Et donc là, ça me permet de conclure par une phrase qui est incroyable. Bon, même si elle est un peu... voilà, bon, on dirait un petit peu une blague carambar, mais bon, je la dis quand même. Enfin, c'est pas une blague carambar, c'est plus comme ça. Ça serait dans les papillotes. Et donc, c'est un étranger, c'est un ami que tu n'as pas encore rencontré. Voilà, c'est super à Val-Fleury.
Dis donc. Et là, on va aller parler du TCL, donc les transports en commun lyonnais, qui explosent les amendes. Alors, en fait, les membres du Citral ont décidé vendredi dernier, à l'unanimité, d'exploser le tarif des amendes TCL au 1er avril. Hein, donc, ce ne sera pas du tout une blague, tout ce que je vais dire là est tout à fait vrai. Et ils ont fait ça lors d'une réunion qu'on peut imaginer fort joyeuse. Hein. Alors, on les imagine gras et repus autour de la table, s'esclaffer au diable avarice, arrondissons, tandis que d'autres gribouillaient des morts aux pauvres sur leur carnet vide. Enfin, une réunion vraiment sympa des gens du Citral. Et en effet, ils n'ont pas sorti la calculatrice cette année. La mode est aux chiffres ronds. Et au record au Citral. Alors déjà, les amendes passent à 60 euros si tu n'as pas de ticket, mais que tu as les sous pour payer immédiatement, ce qui fait une augmentation de 16%. Et ensuite, vraiment, c'est l'escalade. Les augmentations sont carrément à des taux d'usurier. C'est maintenant 80 euros si tu payes dans les jours suivants, c'est-à-dire si tu ne payes pas immédiatement, que tu ne sors pas l'argent. C'était 55,50 euros, hein, jusqu'à présent, donc là on est à 44% d'augmentation. C'est aussi 110 euros si tu payes au bout d'une semaine, donc là c'est plus 23%, et ça c'est par les miracles des soi-disant frais de dossier, donc ils ont quand même des frais de dossier extrêmement importants au Citral, il faudrait qu'on aille les aider à mieux gérer leur boutique. Donc les banques, hein, qui s'engraissent sur le dos des fauchés, ne pratiquent pas tel taux de crédit. Les 60 euros réclamés s'alourdissent maintenant d'un tiers si on ne sort pas immédiatement son porte-monnaie, donc 80 euros, et de 83% au-delà de 7 jours. Après 2 mois, le Citral il traîne carrément au tribunal en fait. Hein. Et les contrôleurs, finalement, méritent assez bien leur surnom de racketeurs. Et c'est très loin la plus forte augmentation depuis des décennies. Le pire, d'ailleurs, peut-être, c'est la suppression de l'amende minorée. Les personnes en possession d'un ticket non composté ou qui avait dépassé son heure de validité pouvaient obtenir jusqu'ici, hein, une amende un peu moins importante. Le tarif, jusqu'à aujourd'hui et encore jusqu'au 1er avril, c'était pourtant déjà élevé. Hein, c'est 34,50 € immédiatement, 55,50 € au bout de 8 jours. Il restait en fait une petite manière de négocier si tu avais un ticket, mais qu'il n'était pas composté par exemple. Et dorénavant, si vous avez oublié de sortir votre ticket parce que vous étiez au téléphone, en train de discuter ou pour mille autres bonnes raisons, le contrôleur vous taxera, quels que soient vos arguments, c'est précisé, de 60 euros sur le champ, ce qui fait une augmentation de 74% par rapport à avant, et de 110 euros après 7 jours. Là, on a 51% d'augmentation, donc les augmentations sont assez folles. Et les TCL nous considèrent donc vraiment, à chaque fois qu'on n'a pas le ticket immédiatement, comme des menteuses ou des menteurs. Et puis quant au défaut de validation de la carte TCLI, hein, alors lui il n'augmente pas, mais il y a une chose qui est importante, c'est qu'il passe désormais comme une infraction. Les 5 euros exigés depuis le lancement de cette carte en 2002 correspondaient soi-disant à des frais de dossier, une manne en fait en réalité, hein, pour le TCL. Et on peut imaginer que la transformation en infraction permettra plus facilement l'appel aux forces de l'ordre en cas de contestation ou d'exiger le paiement via le trésor public si la somme n'est pas payée dans les 2 mois. On rappelle que la validation obligatoire de l'abonnement sous peine d'amende, hein, c'est d'abord un moyen pour les TCL de faire des enquêtes de fréquentation et de trajet sans payer de personnes pour remplir des questionnaires. C'est automatique, tu te fiches à chaque fois que tu passes ta carte sur une borne et c'est hyper économique pour le TCL. Donc l'inflation, hein, qui est souvent invoquée par les gens des TCL pour expliquer les hausses de tarifs, n'a vraiment plus aucun rapport avec l'évolution du prix des amendes. Selon la plus ancienne page fraude du site TCL, qui est un contributeur de Rebellion à consulter, qui est visible sur archive.org, depuis 10 ans, l'amende de base pour défaut de ticket a augmenté de 56%. Hein, elle était de 38,50€ en 2006, maintenant on est à 60€. Et le montant payable sous 7 jours de 88% quand même. On rappelle que le Citral, au sein d'un groupement de transporteurs publics, a également obtenu début 2016 l'adoption d'une série de mesures criminalisant la fraude. Ça devient de plus en plus compliqué, la chasse aux pauvres continue.
Et la chasse aux pauvres continue, même à Lyon 5e, vous savez, bang, 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 comme je le disais. Alors ça, c'est pas la chasse aux pauvres, mais c'est de la pédagogie un petit peu particulière qui a été mise en place par un monsieur d'une cinquantaine d'années à Lyon 5e. C'était quand jeudi, c'est mardi, pardon, j'ai menti. Et du coup, comme il voulait faire dire à son fils qu'il fallait faire hyper gaffe avec les armes à feu, lui, il a sorti lui-même une arme à feu et il a tiré sur le pare-brise de la voiture de la Vicler qui était juste en face. Donc, pas de bol, le gérant de la Vicler, il trouvait ça pas hyper cool qu'on lui pète sa vitre à coups de flingue. Et du coup, il est allé chercher les flics et du coup, le mec est copé de 4 mois de prison avec sursis. Je raconte ça, mais ça m'a fait rire. Alors, voilà.
Ils ont une très bonne méthode éducative dans le 5e.
C'est jusqu'au point jour, au point du jour, t'inquiète à voir. Quoi.
Et sans transition aucune, on va parler maintenant de la carte d'identité biométrique qui arrive aussi dans le Rhône. Alors bon, je l'ai mis dans la rubrique locale, mais c'était pour que vous soyez bien au courant. Mais en fait, c'est bien plus vaste que ça, puisque bien sûr, c'est au niveau national. Et c'est une lutte qui peut parcourir un peu tous les départements de France. Puisqu'alors, on savait que le passeport biométrique existait déjà depuis 2009. Et maintenant, c'est la carte d'identité qui intègre le dispositif cette année. Donc, c'est censé être une manière de lutter contre la fraude, mais également de simplifier les procédures, d'après le secrétaire général de la préfecture du Rhône, qui explique les nouvelles procédures de délivrance. Donc, c'est à partir du 21 mars 2017 que les personnes qui habitent dans le Rhône devront se rendre dans les communes équipées d'un dispositif de recueil de données biométriques, c'est-à-dire capable d'enregistrer les empreintes digitales, pour renouveler leur carte d'identité. Un nouveau dispositif qui devrait permettre, selon le secrétaire général de la préfecture du Rhône, de lutter contre la fraude à l'usurpation d'identité. Bon, en même temps, c'est encore une fois un moyen de nous ficher encore très très bien. Donc, les usagers devraient gagner du temps par des procédures simplifiées, puisque les démarches sont dématérialisées. Sauf si, ils vont peut-être pas gagner du temps si ça finit comme dans Ken Loach, dans Daniel Black, parce que finalement, on voit que la dématérialisation aussi a son lot de problèmes qui peuvent aller avec. Donc, le concept, c'est d'aller remplir un dossier de demande en ligne ou de se rendre dans une mairie où on peut être accompagné vers un petit point numérique dédié à ça. Et voilà, ensuite, il faut passer par un dispositif de recueil de données biométriques pour finaliser la procédure. Et il y en a 112 des dispositifs de recueil qui sont disponibles dans le Rhône comme ça. Il y a déjà 36 communes qui sont équipées. Donc moi, je vais vite aller refaire ma carte d'identité, par exemple, avant le 21 mars, pour pas avoir ça.
Moi, je peux vous dire qu'à Francheville, la petite commune de Francheville, ça existe déjà même avant le 21 mars.
Ah bah voilà, c'est ça, c'est qu'il y a plein d'endroits où ça existe déjà et le but c'est vraiment de l'étendre aux 60 millions de Français quoi. Mais ça a déjà commencé dans les Yvelines, en Bretagne et à Villefranche. Francheville, pardon. du coup, il y a peut-être l'idée qu'il faut faire au plus vite pour pas que trop en parler pendant les élections, pendant la campagne électorale. Il y a aussi donc à Paris, dans le Val d'Oise et dans les Hauts-de-Seine. Et du coup, au 28 mars, ça devrait être généralisé à toute la France. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est ce truc ? C'est un espèce de méga fichier qui doit regrouper toutes les données personnelles de tous les Français, donc les données d'état civil, les noms, prénoms des parents, l'adresse, la couleur des yeux et la taille. Et surtout des données biométriques, comme la photo du visage, les empreintes digitales, qui sont désormais stockées sous forme numérisée dans une base centralisée. Alors tout ça, commence le 28 octobre, où il y a eu un décret qui a été publié au plein milieu du week-end de la Toussaint, et qui étendait donc ce titre de séjour, enfin non, pardon, ce titre électronique, je voulais dire sécurisé, qui existe déjà depuis 2008, aux 15 millions de Français munis d'un passeport. Et donc maintenant, l'idée du décret, c'était de le généraliser à la carte d'identité. Ensuite, début novembre, il y a la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, donc de la CNIL, qui disait que ça risquait d'être dangereux, qu'il faudrait plutôt réfléchir tous ensemble à comment faire pour sécuriser les données de tout le monde. Mais ça n'a pas du tout été entendu. Donc il y a eu plusieurs sonnettes d'alarme tirées par des parlementaires, par des scientifiques, par le Conseil national du numérique qui a demandé la suspension du texte. Il y a d'autres gens qui ont demandé la suspension ou le retrait du décret, comme l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et la Direction interministérielle du numérique et de la sécurité du système d'information de l'État. Alors, eux, ils ont rendu un nouveau rapport début janvier qui montre que ça peut être dangereux, ce méga fichier. Parce que le méga fichier, donc, à la base, c'est pour lutter contre la fraude et simplifier la vie de tout le monde. Mais en fait, pour autant, les réquisitions judiciaires permettent d'accéder à toutes les informations correspondant à une identité donnée et aux empreintes. Donc, en fait, le lien entre les données d'état civil et les données biométriques ne vont pas fonctionner que dans un sens. Le système ne doit pas pouvoir offrir de possibilité d'identifier une personne à partir de ses empreintes ou de sa photo, mais de fait, en fait, on ne sait pas ce que ça va devenir. En fait, du moment que ce fichier existe, on sait qu'en fonction du contexte politique, ça peut aussi mal tourner. Enfin, il peut être utilisé à des fins pires. Enfin, des trucs très chiants, quoi. Le fichage des populations.
Trop généraliser des populations.
Ce qui est très à la mode au point de vue mondial aussi. On parlait de l'Inde il y a deux semaines dans Canu Info. Ouais.
Mais tout à fait. Et donc, alors apparemment, face à la résistance qui s'est un peu montrée devant ce gros méga fichier, il y a Cazeneuve qui a dit que ce serait possible de refuser de mettre ses empreintes digitales liées au fichier. Mais de fait, est-ce qu'on va en être informé de ce droit-là ? Et qui le fera vraiment de refuser d'être fiché ? Parce que est-ce que ça va être dans les us et les coutumes et tout ça ?
Et est-ce qu'on va avoir droit quand même à une carte d'identité ?
C'est ça. Donc là, en fait, il y a des possibilités quand même de résister. Mais voilà, il faut voir petit à petit, il faut essayer d'en parler pour pas que ce soit généralisé. Alors voilà, donc qu'est-ce que je vais dire d'autre ? C'est que... voilà, c'est tout. C'est juste que pour dire que le risque zéro n'existe pas. Et donc, si ce fichier monstre existe, il va falloir faire attention. Donc, pour le moment, il y a déjà des associations qui ont déposé des recours juridiques. Il y a la Commission européenne qui s'est saisie de la question avec les eurodéputés. Et voilà, en fait, il n'est pas trop tard pour essayer d'en parler, de faire une lutte pour la liberté et la protection des données personnelles.
Et alors, donc, demain matin, fonce à la mairie, refaire ta carte d'identité ou alors soutenir ta mamie ?
Ou alors soutenir ta mamie. Parce que la maison de retraite, la Sarah, dans le 5e arrondissement de Lyon, doit bientôt être détruite. Et en fait, à la place de la maison médicalisée, une maison médicalisée va être érigée. Mais il y a 49 résidents qui n'entendent pas de cette oreille et militent pour être relogés dans de bonnes conditions. Ils ont 80 ans de moyenne d'âge à peu près, et ils militent encore. Leur combat, c'est d'être relogés dignement et dans leur quartier actuel. Car les 49 membres du collectif de la maison de retraite ne veulent pas partir. Il y en a un qui dit « Je perds tous mes camarades, on va tous être dispersés partout. » Et puis un autre qui dit « Je suis né à Saint-Just, je voulais mourir à Saint-Just, et ben c'est pas possible. » Le porte-parole du collectif, Luc Desplanques, pardon, a déclaré à une équipe de France 3 « On a beau nous jouer du violon, nous cirer les pompes, il faut aller beaucoup plus loin dans le respect des personnes et surtout dans le respect des choix des résidences qu'elles vont choisir. » Du côté de la mairie, on dit s'engager au mieux pour accompagner les retraités de la SARA, mais la mairie, en même temps, elle s'engage, mais elle prévient quand même qu'elle ne pourra pas satisfaire toutes les demandes, même si elle garantit un logement sur Lyon. En effet, la ville privilégie désormais les EHPAD, donc ces établissements médicalisés, en raison d'une forte demande qu'elle préfère satisfaire. Une soixantaine de demandes ont en effet été déposées dans l'agglomération pour des EHPAD. Alors, trois choix de relogement sont ainsi proposés et les résidents ont encore 15 jours pour formuler leurs vœux, car d'ici 3 ans, le lieu sera transformé en maison pour personnes âgées dépendantes. Et fin 2017, tout le monde aura déménagé, la SARA sera vidée. Alors, l'histoire ne dit pas encore s'il va y avoir une ZAD de personnes âgées à la SARA dans le 5e arrondissement de Lyon, mais ça pourrait être carrément rock'n'roll.
Canu. Info.
Gendarmerie nationale! Arrêtez un peu les conneries là, non?
Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État?
J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
Info nationale.
Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite.
Alors, on part maintenant à Nantes, où la caisse de solidarité est dans le collimateur d'un juge d'instruction. Au mois de janvier et février 2017, les trois personnes titulaires du compte bancaire du comité de soutien aux inculpés, c'est la caisse de solidarité de Nantes, ont été convoquées par la gendarmerie dans le cadre d'une enquête ouverte par une juge d'instruction. En se rendant à ces convocations, elles ont appris que l'enquête portait sur un appel à dons visant à financer via la caisse de solidarité les amendes et frais de justice de personnes condamnées. L'instruction pourrait être longue, car au-delà de cette poursuite, il est clair que l'enquête en cours est un coup de pression de l'État contre des pratiques de solidarité et d'autodéfense de personnes visées par la justice. Il semble en fait qu'elle ne soit qu'une porte d'entrée pour cibler d'autres personnes et groupes qui s'organisent et luttent contre la répression. Donc il s'agit pour celles et ceux qui travaillent autour des questions d'anti-répression ces derniers temps, notamment pendant le mouvement social où il y a une grosse répression, là, le mouvement social contre la loi travail à Nantes. Et il y a aussi des grosses mobilisations sur la zone à défendre, la ZAD à côté de Nantes. Donc l'idée c'est de garder quand même un œil sur cette affaire. Parce que ça peut être les pratiques de legal team qui sont aussi ciblées. Faire la legal team, c'est-à-dire se donner des conseils juridiques pour partir en manif, préparer sa défense en vue d'un procès, d'un passage d'un huissier ou défier un contrôle de police par exemple, c'est un élément incontournable que les personnes et les groupes qui sont exposés à la répression partagent. Donc cette offensive de l'État ne s'adresse pas seulement aux caisses de solidarité, mais semble être une intimidation aussi à l'adresse de celles et ceux aux prises avec l'État. Donc condamnation pour port de bouclier en manif, procédure contre des personnes des équipes médiques, criminalisation de l'aide aux migrants et répression des caisses de soutien et mutuelles de fraude. Donc voilà, à Nantes, ça s'organise autour de ces questions-là, notamment le 4 mars. Voilà, donc ils veulent passer le message, ne laissons pas l'État nous intimider, renforçons nos outils d'autodéfense.
Et du coup, on parle de violences policières et des procès. Et on vous parle d'une toute petite victoire dans le combat d'un jeune de Montbéliard qui, le 7 février 2011, a été blessé par un flashboy. Il a perdu son œil à Audincourt, dans les Doubs. Et en fait, le 21 février 2017, la Cour des cassations casse un arrêt qui confirmait le non-lieu dont avait bénéficié le policier qui avait effectué le tir.
Donc l'affaire est renvoyée dans la cour d'appel de Lyon. Donc on vous raconte rapidement les faits. On est le 7 février 2011, il est 17h55 dans le centre-ville d'Audincourt. Il y a une centaine de jeunes de la ZUP de la Petite Hollande du Buis qui s'affrontent à coups de projectiles, canettes, pierres, bouts de ferraille et de barres de fer. Témoin de la RICS, trois policiers nationaux en patrouille viennent prêter main forte à deux agents municipaux. Ils tentent de s'interposer et un gardien de la paix fait usage à une reprise de son flashball. Et il dit que c'était pour se protéger de cette menace de ce groupe qui approchait. Il précise, les personnes étaient à 5 ou 6 mètres, c'était la seule arme susceptible d'être utilisée à cette distance. Alors, qu'est-ce qui se passe? La balle de caoutchouc atteint à l'œil gauche un lycéen de 17 ans qui attendait son bus à un arrêt situé à une dizaine de mètres de la bagarre et qui n'avait rien à faire avec la bagarre. Selon les policiers, le tir visait un autre jeune homme habillé différemment. Étourdi par le choc, le lycéen ne comprend pas ce qui lui arrive. Alors que manifestement il est grièvement blessé, les policiers contrôlent son identité et effectuent une palpation de sécurité. L'adolescent est finalement pris en charge par les sapeurs-pompiers. Une opération en urgence ne pourra sauver son œil. Donc, le policier tireur avait, le 2 avril 2015, bénéficié d'un non-lieu dans le cadre d'une information judiciaire pour violence involontaire. Les juges d'instruction de Montbéliard avaient estimé que son tir ne pouvait pas être qualifié de violence volontaire parce que la décision de tirer était justifiée au regard des circonstances, ni de blessure involontaire parce que aucune faute pénale d'imprudence, de négligence, d'inattention ou d'inobservation des règles était caractérisée. La famille du jeune homme avait fait appel et la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon avait confirmé le 9 décembre 2015 cette décision de ne pas poursuivre l'agent. Elle avait jugé que le tir qui éborgnait le jeune homme était légal car les policiers faisaient face à un attroupement sur la voie publique. En effet, l'article 431-3 du Code pénal autorise les policiers et gendarmes appelés en vue de dissiper un attroupement à faire directement usage de la force si des violences en voie de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent. Bon, du coup, pourquoi on est quand même un peu content, c'est parce que le 21 février 2017, les juges de la Cour de cassation annulent ces décisions et reconnaissent au contraire que ce recours à la force était réservé aux forces qui sont appelées aux fins de dispersion et que ce n'était pas le cas pour les policiers qui se trouvaient sur le lieu le 7 février 2011. Parce qu'en fait, les policiers nationaux n'avaient pas été appelés sur le lieu, mais juste ils s'y étaient rendus de leur propre initiative. Donc le cadre légal n'était pas du tout le même. Les policiers ne sont pas intervenus pour disperser un attroupement, mais pour mettre fin à des violences en train de se commettre. Ils ont donc agi dans l'exercice de leur mission de police judiciaire et non de celle de maintien de l'ordre. Bon, donc, c'est un peu juridico-judiciaire tout ça, mais bon, en gros, hors attroupement, l'utilisation du flashball est possible en cas de légitime défense ou d'état de nécessité. Et la distance minimale de tir est alors de, attention, 7 mètres, sauf cas de légitime défense. Alors on vous rappelle que les policiers étaient à 5-6 mètres et qu'ils n'étaient pas directement en danger parce qu'il s'agissait d'une bagarre entre deux groupes de personnes. La Cour de cassation estime donc que la première décision n'a pas été statuée sur des éléments de droit. Donc, elle renvoie à la cour d'appel de Lyon le fait de statuer là-dessus. Et testé par des unités lyonnaises dès 1992, le flashball sont aujourd'hui progressivement remplacés dans les armureries de la police par des lanceurs de balles LBD 40-46 qui sont plus puissants et précis et donc tout aussi dangereux, voire plus. À ce jour, l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture, la CAT, a recensé au moins 42 blessés graves et un décès à la suite de l'utilisation de lanceurs de balles de défense de type flashball ou LBD 40, la plupart touchés au visage. Plusieurs de ces affaires commencent à arriver enfin devant les tribunaux. Le 16 décembre 2016, trois fonctionnaires de police ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Bobigny à des peines de prison, bien sûr avec sursis, allant de 7 à 15 mois. Ils avaient blessé au moins 5 manifestants à Montreuil, dont l'un avait été éborgné. Les trois policiers ont fait appel.
Et on peut rappeler qu'actuellement, les policiers bénéficient d'une nouvelle arme, le Pen Arms, qui est une sulfateuse de type flashball qui permet de tirer à peu près 6 à 8 balles, je crois, de flashball en moins de quelques secondes. C'est très rassurant.
Sans papier.
Migration.
Frontières.
Expulsion.
centre de rétention,
Frontex,
asile,
réfugiés,
racisme,
clandestin,
Europe forteresse,
répression,
cadavre,
OQTF.
No border.
Du coup, on vous parle des migrants en France parce que ça se passe pas super. En fait, on va vous parler de Calais et de Paris, ces deux villes où quand même on a un peu pu médiatiser ce qui se passe, le traitement qui est réservé aux migrants qui se trouvent dans ces villes-là. Ça veut pas dire qu'ailleurs ça se passe forcément mieux.
Donc, ah bah si, à Val-Fleury, ça se passe bien.
Ouais. À Val-Fleury, c'est super. Allez tous à Val-Fleury, c'est génial. Alors, à Calais, la guerre des douches continue. Et on vous en avait un peu parlé les semaines dernières. En fait, qu'est-ce qui se passe à Calais? Le Secours catholique est propriétaire d'un hangar dans Calais qui sert pour les distributions des vêtements et pour ses bureaux. Et mercredi 8 février, l'association se fait livrer deux modulaires de 4 douches chacun et un pour l'accueil, pour les personnes à la rue, dans un contexte où des cas de gale ont été rencontrés. Et qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de migrants à la rue qui n'ont pas accès à des douches ou à des services d'hygiène. Donc, un membre de cabinet de la mairie garde sa voiture devant l'entrée pour bloquer l'arrivée du dernier modulaire. Puis la mairie fait installer un conteneur à ordures pour continuer à bloquer l'accès. Et aussi l'accès des secours en cas d'incendie. Bon, ça, c'était il y a quelques semaines. Et depuis, la situation est de plus en plus tendue parce que du coup, le Secours catholique a gardé ses modulaires de douche. Et le 22 février dernier, donc il y a deux jours, pendant l'après-midi, à l'heure où les douches devaient commencer, on trouve quatre fourgons des CRS et une voiture banalisée qui sont postés près de l'entrée. Les policiers contrôlent le premier véhicule qui amène des personnes migrantes et arrêtent sept mineurs qui s'y trouvent. Puis, trois mineurs et quatre majeurs dans le véhicule suivant. D'après la police, les mineurs seraient emmenés au centre d'accueil des mineurs isolés étrangers, géré par France Terre d'Asile à Saint-Omer, qui est à 30 km de Calais. Oui, ils n'y resteront pas s'ils veulent essayer de passer au Royaume-Uni. Et dans ce cas, ils reviendront à pied ou en train, au risque de se faire à nouveau arrêter lors des contrôles systématiques aux faciès qui ont lieu en gare de Calais. Les policiers disent agir sur réquisition du procureur, ce qui voudrait dire que celui-ci considère le fait de prendre une douche comme une menace à l'ordre public, justifiant ses contrôles. Les douches n'ont donc pas eu lieu l'après-midi du 22 février pour que les personnes qui viennent se laver ne soient pas arrêtées. Et on rappelle que le 15 février, du coup une semaine avant, il y avait également trois fourgons de CRS en face de l'entrée et il y a eu sept mineurs qui ont été arrêtés, plus une salariée du Secours catholique et une journaliste de Libération. Voilà ce qui se passe à Calais et à Paris. À Paris, après la guerre de couverture, c'est la guerre des petits déjeuners. On vous rappelle qu'il y a à peine un mois, des témoignages des pratiques inhumaines de la police parisienne qui enlevaient les couvertures aux migrants qui dormaient à la rue en espérant d'avoir une place dans le centre de Port de la Chapelle. Après la dénonciation de ces pratiques et tout le monde qui crie au scandale, parce que quand même, les flics se prennent à une nouvelle activité. Le 16 février, les bénévoles qui viennent distribuer des petits déjeuners aux exilés qui dorment dehors autour du camp dit humanitaire, entre guillemets bien entendu, mis en place par la mairie de Paris à Porte de la Chapelle, se voient interdire de le faire par la police, qui présente un document qui serait un arrêté émanant de la préfecture de la police, qui d'ailleurs nie avoir pris un tel arrêté. Les blocs de pierre ont par ailleurs été mis aux alentours par la mairie pour empêcher les gens de dormir à proximité. Du coup, on vous lit un témoignage du collectif Migrant Wilson, qui est le collectif qui a l'initiative de sa distribution de nourriture, de petits déjeuners devant ce centre. Donc, je lis. 8h30 ce matin, ça date du 16 février, pardon. 8h30 ce matin, alors qu'on va voir les policiers pour signaler notre présence, ils nous interdisent de distribuer. Ni devant le centre, ni devant la déchetterie, ni de l'autre côté de Carrefour. Nulle part. Et pour faire bonne mesure, ils nous mettent deux amendes au moment où on part. Cinquième amende pour notre petit collectif. Nous avons vu de loin le document émanant de la préfecture et qui détaillait toutes les localisations qui nous étaient interdites. L'autre scandale, c'est que désormais, c'est confirmé, il n'y a plus rien à manger ni à boire pour les migrants et migrantes admis en accueil du jour à l'intérieur du centre. Ils et elles passent les journées le ventre vide. Les bénévoles qui gèrent cet accueil
en sont à récupérer les restes des non-distributions pour avoir eux-mêmes quelque chose à distribuer à l'intérieur. Je continue à lire le témoignage. J'ai appelé la préfecture de Paris pour en avoir le cœur net. Voici la réponse qui m'a été faite.
Il n'y a pas d'arrêté, pas d'interdiction de distribuer, juste quelques zones limitées de restrictions.
Alors évidemment, je me suis étonnée. Et le document que les policiers m'ont lu et montré, qui était daté du 13 février, jour où les policiers ont chassé les bénévoles de Solidarité Migrants Wilson en pleine distribution, et l'interdiction formelle qui nous a été faite de distribuer. Réponse.
Il n'y a pas d'arrêté.
Mais c'est papier officiel alors ? Réponse.
Il n'y a pas d'arrêté.
S'il n'y a pas d'arrêté, de quoi s'agit-il alors ? Réponse.
Il n'y a pas d'arrêté.
Et que doit-on faire demain si on nous interdit à nouveau de distribuer ?
Eh bien, vous obéirez aux policiers, bien sûr, quoi qu'ils vous demandent pour des raisons de sécurité.
Et les amendes ?
Si on vous en a mis, c'est forcément que vous aviez commencé à distribuer, alors qu'on vous l'avait interdit.
En fait, nous n'avions pas commencé à distribuer. Nous nous éloignions conformément à leur interdiction, lorsqu'ils nous ont mis les amendes. Voilà. On ne sait toujours pas quelle était la nature de ces documents, ni de quelle préfecture émanent. On l'a bel et bien vu, même de loin. Et nous a bien été lu. Alors, si nous avions bien compris ce qu'a dit et répété la préfecture.
Il n'y a pas d'arrêté.
De quoi s'agissait-il ? D'un document interne, des consignes écrites à destination des policiers du terrain ? On ne sait pas ce qui était vraiment écrit et quelle part aurait pu relever de l'interprétation d'un fonctionnaire un peu trop zélé. Nous l'avons vu de trop loin. Fin du témoignage.
Et on passe tout de suite à la rubrique internationale.
And now in the Canu Info.
Rubrique International.
Rubric.
Cronaca internazionale.
Ah, c'est toujours moi.
Eh oui, Trump.
Trump, en fait, parce que on se demande, mais comment il va Trump ? Qu'est-ce qu'il fait de beau ?
Un imbécile, ça Trump énormément, non ?
Alors, en fait. Ah oui, en plus, c'est un truc qu'on a dit. Bon, du coup, en fait, on vous parle de Trump parce qu'il y a quelques jours, Trump a annulé une directive de l'ex-président Barack Obama qui demandait aux écoles de tout le pays de laisser les étudiants et les étudiantes transgenres de décider quelle toilette utiliser. En harmonie avec les lois contre la discrimination sur la base du genre et de l'orientation sexuelle. Donc la directive d'Obama, qui n'était pas une loi, mais c'était une préconisation assez forte, était intervenue après une loi votée au North Carolina en 2016, qui notamment obligeait les personnes transgenres à utiliser les toilettes et les vestiaires publics qui correspondaient à leur sexe biologique de naissance. Donc Obama, il a dit non mais ça c'est vraiment pas cool. Il a fait cette directive là et on dirait qu'en fait bah il y a pas trop d'enjeu, c'est un peu une directive de bon sens. Et bah pourtant ça n'a pas plu à tout le monde parce qu'il y a bien 11 États des États-Unis qui ont saisi la Cour suprême pour annuler cette directive. Et la Cour suprême examinera la question le 28 mars. Donc, ce qui suspend la décision de Trump d'annuler cette directive. Mais bon, il est question de quelques semaines. Alors, pourquoi Trump, il a fait ce choix, en fait ? Eh bien, on ne sait pas trop, parce qu'en avril 2016, il avait quand même dit l'inverse, en disant que les personnes transgenres pouvaient utiliser les toilettes de leur choix. Et quelques jours plus tard, en fait, il avait changé d'avis. Et parce que ses propos, il avait effectivement froissé beaucoup de personnes dans son parti qui n'étaient pas contents. Et du coup, Trump, il a changé de version. Il a dit qu'il ne savait pas trop quelle était la position à prendre là-dessus et qu'il voulait plutôt laisser chaque État décider par lui-même sans rien imposer. Et donc, c'est ce qu'il a fait ce mercredi 22 février. Et du coup, Trump, il n'est pas spécialement hyper clair là-dessus parce que, par exemple, sur les droits des personnes LGBTQI, apparemment, il a fait des déclarations qui font penser qu'il est un peu moins conservateur qu'une frange de républicains qui est la plus proche des groupes religieux chrétiens. Par exemple, il avait dit que les mariages des personnes du même sexe, c'était quelque chose d'acquis et qu'il n'avait pas du tout envie de changer ça. Et du coup, apparemment, il a eu une une bonne pression de la part de la partie la plus conservatrice des Républicains. Et il s'est dit, oulala, oulala, c'est mes grands potes, il faut bien que j'y prenne des mesures. Et voilà cette nouvelle décision.
Et oui, bah... Du coup, on veut avoir des nouvelles de ce qui se passe en Suisse, parce qu'en Suisse, et ben à Berne, figurez-vous qu'à Berne, il y a des squats, et il y a des squats même qui se font expulser. Et oui, qu'est-ce qui se passe? Depuis cet été, il y a un bâtiment qui appartient à l'État suisse, qui est occupé par un collectif de personnes. C'est un bâtiment qui était inoccupé depuis longtemps, qu'ils ont décidé d'occuper, et puis bah, du coup, ça faisait plusieurs semaines qu'ils étaient sous la menace d'expulsion, et mercredi, ça s'est passé, l'expulsion est arrivée. Du coup, c'est une espèce de dispositif de plusieurs centaines de flics qui ont attaqué le squat pour essayer de l'expulser, mais du coup les occupants et les occupantes ne se sont pas laissés faire, ils se sont planqués dans les étages et ils ont balancé pétards, pots de peinture et mobilier et compagnie sur les flics qui essayaient de les déloger. Surtout que pas de bol pour les flics, il y avait en plus plus d'une centaine de personnes qui étaient autour de la maison et qui étaient là en soutien pour les occupants et les occupantes, qui leur ont filé de la bouffe et qui ont foutu un peu de bordel dans la rue en même temps pour ralentir un petit peu les flics. Bon, les flics ont fini par gagner, bien sûr, parce qu'ils avaient un canon à eau et compagnie, mais il y a eu quand même...
Ils trichent quand même.
Ouais, c'est pas cool. Mais attends, parce qu'il y en a eu 5 quand même, parce que du coup, il y a la présidente de la Fédération Suisse des Fonctionnaires de, Police, qui est vénère, qui dit « La brutalité avec laquelle les squatteurs ont, attaqué les policiers est absolument inacceptable. » Donc c'est vrai que c'est dégueulasse, il y a 5 policiers qui ont dû se soumettre à un contrôle médical. Alors un contrôle médical pour des troubles à l'ouïe. C'est-à-dire que les mecs, ils balancent des bombes assourdissantes dans tous les coins, et après, pas de bol, ils vont aller se faire réparer les oreilles. Donc voilà, quoi, tu vois, vraiment des fous, quoi, ces squatteurs et ces squatteuses, ils ont tout canné, quoi. Mais résultat, le soir même, il y a quand même les gens qui était du coup sorti du bâtiment qui s'était fait déloger par les flics. Il y en a à peu près 19 qui ont été arrêtés, la moitié qui ont été relâchés le soir même et l'autre moitié aujourd'hui. Et donc le soir, il y a une espèce de manif sauvage qui est parti du coup de 400 personnes qui s'est baladé dans toutes les rues de Berne et qui a fait... un peu pété, pas mal de vitrines, de banques, de trucs pour tirer les sous, là, de distributeurs de banques, de voitures, d'arrêts de bus et compagnie dans la ville. Alors on estime à plusieurs dizaines de milliers de francs suisses les dégâts. Et du coup, ça continue. A priori, ce soir, il y avait un rendez-vous. Alors, si vous écoutez depuis la Suisse Radio Canu, il y a un rendez-vous ce soir à 20h devant la Reichsschule à Berne. Et il y en a un autre demain devant la Reichsschule, du coup, encore une fois, à 20h. Donc, du coup, les Suisses, se vénèrent quand on les expulse. Je vérifie si j'avais une autre blague drôle à propos de ça. Mais,
sur les Suisses?
Sur les Suisses, non.
On va éviter les blagues sur les Suisses.
Là. Non, c'était pas des blagues sur les Suisses que je voulais faire. C'était c'était ça. C'était les flics qui ont dû avoir un contrôle médical parce qu'ils avaient des troubles à l'ouïe. Sinon, pardon. Non.
Du coup, tu l'as déjà faite.
Bah ouais, c'est pour ça. Je vais la faire deux fois parce que ça me fait.
Et donc, les Suisses se vénèrent quand on les expulse. Il paraît que les Sioux aussi se vénèrent quand on les expulse.
Et oui, jolie transition qui n'était pas du tout évidente parce que en vrai, on a parlé des États-Unis, on a parlé de la Suisse et on retourne aux États-Unis. Et toujours pour parler un peu des jolies décisions de Trump. Parce que du coup, le 29 février dernier, la ZAD de protestation contre la Dakota Access Pipeline au Nord Dakota aux États-Unis a été expulsée et 10 personnes arrêtées. Du coup, ça aussi, on vous en avait déjà parlé au fur et à mesure. Et même la dernière fois, on vous avait donné des bonnes nouvelles. Alors, pas du tout. Parce que du coup, cette pipeline, c'est un projet d'une longueur de 1800 km, dont la construction est évaluée à 3,8 milliards de dollars et financée en partie par des banques françaises, entre autres. En fait, elle a été construite en grosse partie, mais du coup, la partie finale de sa construction menace des sites culturels ancestraux des Sioux et leurs sources d'eau. Et notamment, elle passe à travers une réserve de Sioux. Et depuis le 1er avril 2016, des tribus amérindiennes et des militants et militantes écologistes occupent ce terrain privé acheté 18 millions de dollars par la société exploitante. Pour défendre cette zone et pour empêcher les travaux de continuer.
Au terme de 9 mois de résistance, le 4 décembre, c'est là où on vous avait donné des bonnes nouvelles. Le corps des ingénieurs de l'armée américaine avait annoncé qu'il refusait à la société pétrolière un permis de forage sous la rivière Missouri. Le gouvernement s'engage également à entreprendre une étude d'impact environnemental complète et à étudier des tracés alternatifs. Et la construction du pipeline était donc stoppée. Donc on était le 4 décembre encore sous l'administration Obama. Donc l'administration Trump a bien évidemment changé la donne, et ça pour plusieurs raisons, parmi lesquelles le fait que Trump a investi lui-même entre 5 000 et 1 million de dollars dans la compagnie Energy Transfer Partners et une somme similaire dans la société Phillips 66, qui bénéficiera de 25% des parts dans l'oléoduc une fois sa construction achevée. Donc, conflit d'intérêts, mais c'est pas grave parce que Trump signe le 24 janvier, 4 jours après son investiture, des décrets présidentiels visant à relancer le projet d'oléoduc. Du coup, l'un c'est celui dont on parle, le Dakota Access Pipeline, et l'autre il s'appelle Keystone XL. Et tous les deux faisaient l'objet d'une intense bataille politique entre les défenseurs et défenseuses du climat et les industriels des énergies fossiles. Et tous les deux avaient été suspendus par l'administration Obama. Mercredi dernier, le 22 février, a eu lieu l'expulsion de la réserve de Standing Rock. La grande partie d'occupants et occupantes a choisi de partir pacifiquement. 10 personnes qui résistaient aux ordres de la police ont été arrêtées et une cinquantaine reste sur place. Le gouverneur du Nord Dakota, Doug Burgum, c'est un républicain, a déclaré que l'expulsion s'est très bien passée et que depuis le 23 février, le gouvernement aura libre accès à la zone. Il donnerait aux 50 personnes qui restent le choix de partir ou de se faire arrêter. Le commandement des manifestants et manifestantes regroupait jusque-là un millier d'activistes venus de tous les États-Unis. Tout a été brûlé pendant l'expulsion. Burgum avait firmé l'ordre d'évacuation d'urgence la semaine dernière en disant qu'il le faisait pour permettre à la compagnie Energy Transfer to Crude Oil, la société qui détient le projet d'oléoduc, d'enlever les déchets de la zone et pour la rendre plus sûre du point de vue hydrologique. Du coup, bien entendu, c'était pour le bien des personnes occupantes qui auraient été en danger. Du coup, voilà, le 23, donc hier, il ne restait que 50 personnes à défendre les lieux. On peut bien imaginer que la violence de la police soit arrivée à les faire dégager. Donc, voilà une grande mauvaise nouvelle concernant cette zone à défendre qui n'est plus trop défendue.
Du coup, on n'a qu'à mettre tous nos espoirs sur les retraités de la maison de retraite, la Sarah.
La date du 5.
On n'est pas sûr que l'enjeu soit le même. On va essayer de trouver des bonnes nouvelles dans...
L'agenda.
Je te rappelle qu'on va au théâtre ce soir, Chou.
Oh oui, putain. Oh, quel bordel.
Et là, tout de suite, maintenant, faut courir vite dans les pentes de la Croix-Rousse pour aller à la Plume Noire. Il y a une soirée de soutien pour les clandestins.
Alors, c'est quelle lutte et quelle solidarité avec les sans-papiers. C'est ça le thème de la soirée. Et c'est autour d'un documentaire qui s'appelle effectivement Clandestins. Et donc, où c'est la Plume Noire?
C'est...
Diderot,
voilà, c'est juste à côté de la place Colbert, bien sûr.
Dans le premier arrondissement, dans les pentes de la Croix-Rousse.
Voilà, et du coup, ce documentaire, c'est pour connaître un peu les conditions des travail des travailleuses et travailleurs sans papier et d'en discuter et de réfléchir à comment créer de la solidarité avec les gens. Mais également ce week-end, alors nous, on ne sait pas exactement. Qui organise ça, mais c'est le il y a un meeting le dimanche 26 février contre le racisme, les violences policières, la OGRA et la chasse aux migrants et migrantes. Et ça va être à la Maison des Passages, 44 rue Saint-Georges. Voilà, c'est dans le Vieux-Lyon. Et ensuite, dans l'agenda, il y a également l'anniversaire de la prolongation de l'état d'urgence.
Il faut courir vite à 19h, place des terreaux. C'est ça ou pas?
Ah, mais on est le 24?
Ah, ouais, oui, complètement.
C'était tout à l'heure.
C'était tout à l'heure, c'est raté.
C'est peut-être. Mais non, c'est à 20h.
Ah, c'est maintenant. Ah, bah, allez, on y va, vite, on finit, on y va.
Vous sortez de la radio, vous prenez la première rue à droite, vous tournez la première rue à gauche, vous dites yes.
Parce que l'idée, c'est de dire que. On peut pas. En fait, c'est que ça devient normal que ce soit l'état d'urgence en permanence, que ce soit la lutte contre le terrorisme en permanence, et donc qu'il y ait de la répression en permanence. Donc l'idée, c'est de se retrouver pour dire que cette situation, elle n'est pas normale. Et que ça doit pas passer inaperçu un anniversaire comme ça. Et puis en plus, si à bouffer, c'est tant mieux. Ça permet de manger. Mais quand même, pour rappel, l'état d'urgence, c'était quand même le 13 novembre 2015, au nom de la guerre contre le terrorisme, quand même. Donc c'est un état d'exception qui est complètement devenu la règle, hein, finalement.
Du coup, c'est on quoi peut comme se anniversaire comme ça.
C'est son un an et demi et des brouettes.
Ouais, c'est ça.
C'est un an et trois mois.
Bah ouais, c'est tous les 6 mois. Ouais.
Ouais, tous les 3 à 6 mois qu'ils l'ont reconduit. Ouais. Et à chaque fois avec des votes absolument phénoménales, avec quasiment aucune opposition à l'Assemblée nationale.
Mais parce que souvent, il y a 24 personnes à l'Assemblée nationale.
Non, des fois, il n'y en a que 12.
Alors, c'est dur d'avoir une vraie opposition quand même.
Mais du coup, il n'y a plus qu'à ramener ses cotillons à la place des terreaux.
Et vos chips.
Exactement. Pour demander la levée des mesures d'exception et condamner la répression, les violences policières, l'islamophobie et le racisme d'État. Depuis un an, enfin, et 3 mois, et même plus, mais voilà.
Mais c'est de pire en pire.
Tout à fait.
Et demain, qu'est-ce qu'il se passe?
Ah ben, demain soir à l'atelier, il y a quelque chose, non?
Ah oui, avec des voitures,
ah ouais,
des buissons. C'est l'auto-école buissonnière.
Ouais, c'est ça, c'est l'auto-école buissonnière, je crois.
Mais incroyable, l'auto-école buissonnière, c'est donc un collectif qui s'organise pour permettre à des personnes de passer le permis sans payer des milliards et se ruiner jusqu'à la fin de leur vie.
Et du coup, ils vous invitent, je crois bien, à l'atelier des canulars. Du coup, c'est 91 rue Montesquieu, à venir partager un repas avec elle et eux, et à découvrir leur projet, à lire leur brochure incroyable qui est sur du papier glacé en plusieurs pages. Et peut-être même...
Ça fait toute la différence.
Et donc, et peut-être même, du coup, à leur donner un petit peu de sous pour qu'ils puissent continuer leur projet incroyable.
Et oui, puisque comme vous vous rappelez du reportage de l'année dernière dans le Canu Info du vendredi, ils permettent voilà, d'avoir à base de voitures double pédale de ne pas forcément passer par une auto-école standard.
Exactement, en fait, il suffit que tu aies un pote qui ait 10 ans de permis pour qu'il puisse t'apprendre à conduire. Non, 5 ans de permis, pardon, c'est moins que ça.
Même.
C'est 5 ans, et en fait, il prend les commandes, il devient moniteur d'auto-école, et du coup, ça coûte quand même beaucoup moins cher, et toi, ensuite, tu gères la voiture avec les autres personnes qui s'en servent. Et c'est super cool, et je crois qu'on peut même dire qu'on a des infos exclusives, c'est donc a priori à 19h demain à l'atelier, et même il paraîtrait qu'il y aurait du chili à manger et probablement des fritures de divers légumes qui sortiraient des friteuses de l'atelier.
Alors si tu n'aimes pas forcément l'auto-école mais que tu as envie de manger et de dépenser tout ton argent follement, tu peux venir également.
Il est fuite,
oui, on a le droit d'avoir le permis
bière.
Quoi.
Oui, tu peux, oui.
T'as tous les droits, mais il faut aussi avoir des amis sympas pour t'aider à conduire si t'as envie de faire ce projet quand même. C'est ça qu'il faut dire.
C'est pour ça qu'il y a un collectif.
Exactement.
Trouver des amis qui peuvent te faire maître ou maîtresse de l'auto-école.
Mais si vous pouvez pas venir, il y a une brochure qui existe qui explique tout sur l'auto-école buissonnière sur un faux kiosque.
Elle est sur papier glacé si on va à l'atelier des canulars.
Mais il nous reste quelques minutes, alors tant pis, je vais vous annoncer la grève et manifestation de la santé et de l'action sociale qui aura lieu le 7 mars.
Tu veux dire pas la semaine prochaine?
Non, précisément le mercredi de la semaine d'après.
Ah ouais.
C'est un mardi.
Ouais, mais comme je suis un peu perdue dans les dates... Et qu'aujourd'hui, je ne savais pas quand c'était le 24. Voilà, donc ce qui est important, c'est que c'est le 7 mars, donc un jour avant la journée des femmes, puisqu'on n'a qu'une journée par an. Mais bref, le 7 mars, ça n'a rien à voir. C'est la journée de la grève dans la santé et l'action sociale. Donc, il y aura une manifestation à Lyon à 14h de la préfecture jusqu'à l'hôtel de ville. Donc, il faut vite, vite se mettre en grève, là. C'est l'appel des syndicats CGT, Sud et FO. Et c'est un peu l'idée de dire stop à toutes ces réformes de merde qui font qu'il y a une réduction du personnel un petit peu de partout dans les hôpitaux, que du coup tout le monde est en burn-out ou en arrêt maladie, et voilà, c'est pour lutter contre ces réformes incroyables.
Mais du coup, comme c'est la semaine prochaine, on n'aura qu'à en reparler la semaine prochaine dans le Canu Info du vendredi. Et surtout, juste après, c'est Noise Pollution. Et d'ici là, n'oubliez pas, paniquez pas
et niquez tout.